right here, right now. Every day, CIUT 89.5, the sound of your city. Toronto.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Adra ben la cosa, ding dong, ding dong.
Écoutez la planète chanter.
Action positive, VIH, SIDA. Présente.
Des préservatifs.
Ouais, mais je sais pas où ils sont.
Où est-ce que de toute façon.
Mais non.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez vu, nos deux jeunes amis ont décidé d'avoir des rapports sexuels non protégés, et ce, malgré les nombreux risques. VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue, Erika et Steve, vous risquez tout ce soir.
Capote ?
Capote. VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue, on ne joue pas avec ça, on met un préservatif.
Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Édition spéciale, Journée mondiale de lutte contre le sida 2015. 30 ans après, où en sommes-nous? En ce dimanche 29 novembre, à la commande, l'ingénieur du son, DJ Devera, merci d'être là. Production et animation, Eric Kader. Vous pouvez aussi nous écouter où que vous soyez à travers la planète sur www.cut.fm, www.ciut.fm. Plus de 30 ans après la découverte du sida, il semble plus que jamais que cette maladie fait partie de notre vie. Mais devons-nous pour autant baisser les bras? À travers leurs regards touchants, parfois graves ou drôles, témoins de la première heure, militants, militantes de toujours, jeunes générations nous livrent leur vision de l'histoire de la lutte contre le sida. D'un point de vue communautaire, social et politique, 30 ans après, la stigmatisation des personnes séropositives persiste. Et Toronto, où plus de 400 francophones vivraient avec le VIH, ne fait pas figure d'exception. Parmi nos invités aujourd'hui, qui ont gracieusement répondu à notre invitation, Paul Lapierre, directeur général Ontario AIDS Network, Michael Bailey, directeur de programme de sensibilisation et d'éducation à l'agence canadienne Cathy, Fanta Ongoiba, directrice générale Africans in Partnership Against AIDS, APA, Jean-Roch Boutin, membre fondateur d'Action Positive VIH à SIDA, lors d'un reportage qu'on reprendra aujourd'hui au cours de cette émission, Valérie Pierre-Pierre, directrice générale au Conseil des Africains et Caribéens sur le VIH à SIDA en Ontario. Les patients et les médecins parlent de l'autotest du sida, un reportage de Radio France Internationale à Paris. Véronique Dicker, chanteuse, interprète engagée dans la lutte contre le sida. et des artistes de Côte d'Ivoire donnant un knockout au SIDA. Eh oui. Et puis les artistes de SIDAction en France, les 20 ans de SIDAction, un clip Kiss and Love. Et enfin, toute la programmation du 1er décembre, journée internationale de lutte contre le SIDA. Programmation de nos partenaires ici à Toronto et un peu partout à travers le Canada. Vous pouvez nous joindre tout au long de l'émission si cela vous intéresse. En direct, 416-946-7000, je répète, 416-946-7000 ou encore hashtag Popourichaud. Merci à tous nos partenaires, merci à nos invités, merci à toutes les agences qui ont répondu à nos appels. Et vous, madame, monsieur, soyez des nôtres, restons mobilisés. Appelez-nous, 416-946-7000. Popourichaud, c'est votre émission. Toute la diversité du monde sur votre fréquence. Action positive VIH SIDA vous convie à sa première présentation de Marmalade Cocktail. Et oui, vous pourrez entendre la version live que vous donnera la sulfureuse drag queen Jessica Carlisle de la chanson thème de l'événement Lady Marmalade. Et de plus, le danseur Xinyang Adelam virevoltera sur ses talons hauts, madame, monsieur, pour vous, alors que le DJ Greg Dominic mettra le feu aux poudres avec ses rythmes coquins. La direction artistique de Marmalade Cocktail est assurée par Normand Badin. Alors soyez au rendez-vous au Church on Church, 504 Rue Church, le 10 décembre prochain. Un rendez-vous à ne pas rater dès 19h. Le 10 décembre, dès 19h, au bar Church on Church. La journée mondiale du sida a lieu chaque année, le 1er décembre, pour nous rappeler que la lutte contre la pandémie est loin d'être finie. Cette journée est consacrée à la sensibilisation à la pandémie du sida et de solidarité avec les personnes concernées. Une pensée spéciale, aujourd'hui et surtout le 1er décembre, pour toutes les personnes qui continuent à lutter, à militer pour enrayer à jamais le sida dans notre société. Cette journée du 1er décembre continue de nous rappeler les nombreux dommages causés par cette maladie dans nos familles, dans nos communautés. Mais en même temps, c'est une journée d'espoir, d'engagement et de solidarité mutuelle. Ici à la radio, nous saluons le travail et l'engagement de tous ces organismes francophones surtout, particulièrement, qui travaillent de près auprès des personnes atteintes du virus VIH. Je pense à la disponibilité de tous ces artistes, ces experts ou encore des bénévoles qui acceptent de mettre leurs forces en commun, leurs talents en commun dans la préparation de certains événements dédiés à la communauté francophone du Grand Toronto le 1er décembre prochain. Mais tout au long de l'année, nous pouvons aussi proposer à la communauté francophone des actions concrètes en termes d'éducation, de prévention et de dépistage gratuit ou anonyme. Comme vous savez, il y a un centre francophone de Toronto qui offre cette possibilité si vous désirez vous faire dépister, je dis bien gratuitement et tout en gardant votre confidentialité. L'émission d'aujourd'hui se veut un signe de solidarité avec les personnes vivant avec le VIH et le SIDA. Pour que le sujet ne tombe pas dans l'oubli, il faut continuer à se mobiliser et partager nos ressources et expertises pour lutter contre le SIDA. La guerre n'est pas encore gagnée. On ne meurt plus du SIDA aujourd'hui, surtout dans les pays riches. La maladie ne fait plus peur. Et c'est là son principal ennemi. Selon une étude l'espérance de vie des patients atteints du VIH a grimpé à 65 ans. Eh oui. Et aujourd'hui, plus de 35 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH. Au Canada, 73 000 personnes ont été diagnostiquées comme étant séropositives alors que c'était 49 000 en 2001, selon les statistiques de la Fondation canadienne de recherche sur le sida. Selon les estimations de l'Agence de la santé publique du Canada, environ 42% des 73 000 personnes séropositives résident en Ontario. Selon un membre de notre organisme, membre partenaire à cette émission, et je cite, « L'infection par le VIH est devenue une maladie chronique maîtrisée, comme le diabète ou l'hypertension. C'est la beauté de la trithérapie, dit-il. Le revers de la médaille, c'est que le VIH ne fait plus peur. Beaucoup de jeunes, par exemple, banalisent aujourd'hui le sida, s'inquiète cette personne. Pour eux, c'est une maladie de mon oncle, de quelqu'un d'autre. » Et puis, il y a tout ce phénomène. Aujourd'hui, on ne meurt pas nécessairement rapidement, comme c'était dans le cas dans les années 80 avec le sida. On vieillit avec le sida. Alors, vieillir avec le VIH, c'était une notion inimaginable il y a 15 ans. Elle est heureusement maintenant réalité pour beaucoup de personnes vivant avec le VIH, mais pose néanmoins un ensemble de problèmes, de questions non résolues. Donc, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire pour répondre à des services, à des soins, des programmes ciblant les personnes âgées vivant avec le VIH dans notre communauté. En effet, malgré de nombreuses campagnes d'information, les préjugés persistent envers les personnes âgées aux prises avec le VIH. Il ressort des témoignages d'une angoisse générale face au traitement des personnes âgées, angoisse renforcée par le fait de vivre avec le VIH. La question des maisons de retraite, des maisons d'hébergement est notamment récurrente. Les participants s'interrogent sur la possibilité d'intégrer ces structures malgré leur pathologie. J'essaie de ne pas y penser, mais quand je vois comment sont traitées les personnes âgées dans l'ensemble, c'est pas rassurant. Un homme de 57 ans, diagnostiqué en 2005. Un autre homme de 67 ans, diagnostiqué en 2001, dit, et je cite, « Mon interrogation est mon devenir dans le futur. Si je souhaite entrer dans une maison de retraite, voudront-ils d'un séropositif ?» Une femme de 43 ans, diagnostiquée en l'an 2000, nous dit « Je me demande comment sera la vieillesse avec le VIH et les traitements. Et si je serai admise dans un centre d'accueil pour personnes âgées avec ma pathologie, comment cela va se passer ?» Eh oui, donc nous sommes témoins des besoins spécifiques des groupes cibles, incluant les immigrants. Lors d'un forum organisé par Action Positive, Forum pour les femmes sur la santé sexuelle et le VIH, c'était au mois de mars 2015. Là, on a eu vraiment un tableau pas très très rose. Il n'y a pas de service ciblant les femmes francophones en Ontario. Beaucoup de femmes qui étaient présentes ont demandé qu'il y ait une meilleure prise en compte des spécificités des femmes. Et enfin, ce n'est pas un secret pour personne, il existe en Ontario de grandes disparités dans les programmes en matière de VIH. Et oui, et particulièrement pour les hommes francophones, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des bisexuels, des transsexuels. Et les personnes âgées, bien sûr. Il est triste qu'en 2015, les problèmes du sida social, de la stigmatisation et de la discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH restent une caractéristique de notre société. C'est pourquoi il faut continuer de se battre. Il faut continuer à sensibiliser, mobiliser nos communautés. À vous d'agir.
On nous disait qu'il y avait trois catégories de personnes. En 1984-1985, on nous disait qu'il y avait la catégorie de ceux qui mouraient très rapidement, ceux qui mouraient lentement, mais sûrement, et ceux qui mourraient pas du VIH. Alors, moi, à ce moment-là, je m'étais catégorisé dans la catégorie qui mourrait pas du VIH. Quand mon copain a été diagnostiqué du VIH en 87, ça a été un choc, mais moi, je voulais pas me faire diagnostiquer tout de suite, et j'ai attendu, tout en étant suivi par mon médecin régulièrement. J'ai attendu jusqu'en 88, jusqu'en octobre 88, pour me faire prendre un test, parce que il y avait pas de médicaments. Alors, je ne voulais pas m'exposer pour rien à un test, me faire diagnostiquer de quelque chose que je ne pourrais pas être traité et qui allait m'énerver, qui allait me nuire sur le plan psychologique.
Lorsque j'ai déménagé ici au Canada en 2006, c'est comme ça que j'ai appris que j'avais le VIH. On a fait des tests d'immigration, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais infecté. C'était comme la fin du monde, et puis je me suis enfermé moi-même. Je ne savais pas quoi faire. Comme j'étais dans un autre pays, alors je croyais que j'allais avoir une bonne vie. Après, c'était horrible d'avoir le VIH.
Le visage du VIH a changé beaucoup depuis que je suis arrivé à Toronto. Quand je suis arrivé, en fait, en 92, il y avait un genre de trou noir. Il y avait presque pas de monde qui parlait du VIH en français à Toronto. Les francophones, c'était presque tous des hommes gays. À cette époque-là, je connaissais personne d'autre que des hommes gays. Toujours aujourd'hui, le VIH, même s'il a évolué, la majorité des gens qui sont touchés par le VIH, soit ceux qui vivent avec, sont des hommes gays. Plus de 70% sont des hommes gays.
I had this dream. This dream is the apocalyptic nightmare that gay men take to bed with them every night. Alone.
On voit de plus en plus des gens, des communautés, des groupes où le sida est endémique. Des pays d'Afrique particulièrement, des Caraïbes, où il y a un certain nombre, on parle de 12% environ des personnes qui vivent avec le VIH.
On a tous contribué d'une certaine façon à donner un pouvoir social au VIH. Et le VIH, évidemment, s'en est accaparé. Donc, avec ce pouvoir-là, le VIH a détruit des familles, a décimé des vies à cause de la stigmatisation.
J'ai passé 3 ans sans discuter avec ma famille. C'était dur. Je devais cacher les médicaments, je devais cacher les lettres, je devais cacher toutes choses pour ne pas montrer que j'avais le VIH. Et c'est après des informations, et comme je ne voulais pas vivre dans l'isolement, j'ai décidé de dire à ma famille que j'étais infecté du VIH. Chaque fois que j'utilisais des ustensiles, ils ne prenaient pas. Par exemple, j'utilisais une assiette. Personne ne pouvait pas manger sur l'assiette. Ou bien si j'allais dans le baignoire, c'était difficile. Aucune personne ne pouvait pas utiliser le même baignoire. Chaque chose qu'ils utilisaient, c'était infecté.
Je prends 16 prescriptions par jour depuis au moins, je dirais, 8 ou 9 ans. Tu as un médicament qui traite ta maladie. Et celui-là te cause certains effets secondaires que tu dois traiter avec un autre médicament qui, à ce moment-là, devient un effet entre médicaments et que tu dois traiter avec un autre médicament. Quand des problèmes de santé commencent à se mêler de ta vie professionnelle, tu n'as pas le choix de faire ton coming out et de dire « ben je suis VIH positif ». Et là, tout de suite, ça flash, hein? C'est des frais d'assurance, les médicaments coûtent cher, et puis les absentéismes vont coûter cher.
Quelquefois, c'est difficile de travailler dans certains endroits comme là où on fait les fruits, la viande, tout ça, parce que tout ça peut affecter la nourriture. Alors, tout ça que tu es un peu stigmatisé aussi, lorsque tu as la couleur noire aussi, tu deviens aussi automatique. Tu as le VIH, tu as la couleur noire, tu es immigrant, tu n'es rien.
I've tried to give you my soul, you already had one.
Le tableau francophone au niveau du VIH reste, disons, il est meublé de beaucoup de défis.
Ça change, mais ça change pas tant que ça. Faut pas se péter les bretelles trop, ni par rapport aux gays, ni par rapport au VIH, surtout dans la communauté francophone, parce qu'on a beaucoup de retard à prendre.
Reste que la communauté francophone en général est elle-même très, très, très homophobe, je me permets de le dire. Donc c'est de pouvoir éduquer la communauté francophone en général, mais plus spécifiquement les communautés ethnoculturelles francophones. Parce qu'au sein de ces communautés-là, l'homophobie, la stigmatisation, le tabou au niveau du VIH reste encore très présent.
Dans la communauté, il faut que les gens apprennent que le VIH est une maladie comme tant d'autres. Et même les gens qui vivent avec le VIH vivent plus longtemps que les gens qui ont beaucoup d'autres maladies. C'est une maladie non incurable, on le sait, mais les médecins travaillent sur ça et les chercheurs travaillent sur ça. Et puis que aussi une fois que la personne qui est infectée, c'est une personne comme tant d'autres, que c'est une personne à respecter comme on respecte d'autres personnes.
Édition spéciale, journée mondiale de lutte contre le sida, c'est le 1er décembre à chaque année, 30 ans après, où en sommes-nous? Je vous rappelle que nous avons plusieurs invités qui vont être là tout au long de cette émission. Paul Lapierre, directeur général de Ontario AIDS Network, Michael Bailey, directeur de programme de sensibilisation et d'éducation à l'agence canadienne CATI, et Fanta Ongoiba, directrice générale de Africans in Partnership Against AIDS. Nous avons entendu Jean-Roch Boutin et aussi Carlos Ilibuo qui travaille à Action Positive, qui ont donné un témoignage lors d'un reportage il y a quelques mois de cela. Et nous allons entendre aussi les patients et médecins qui vont nous parler de leur expérience avec l'autotest du sida qui existe au Canada, mais aussi en France, qui fait d'ailleurs beaucoup de remous dans le corps médical, mais dans la communauté. Un reportage de Radio France Internationale à Paris. Et puis nous allons avoir des artistes de Côte d'Ivoire. Donnons un knockout au sida et les artistes de SIDAction. Les 20 ans de SIDAction, un clip Kiss and Love que vous connaissez sans doute. Pour nous joindre tout au long de l'émission, si vous avez des annonces ou encore des activités communautaires dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida cette année, vous nous appelez au 86 946 7000, je répète. 416-946-7000.
Depuis longtemps, les rubans sont complices de moments de bonheur, d'espoir et d'amour. Dans la lutte contre le sida, le ruban rouge est devenu un symbole de solidarité contre l'ignorance et les préjugés qui entourent si souvent cette maladie. En portant le ruban rouge, vous témoignez votre appui à ceux et celles qui sont atteints du VIH. S'il vous plaît, affichez vos couleurs.
J'ai des amis hollandais. J'ai des amis javanais. J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai des amis au Sénégal.
Du côté gloumoy.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, avant.
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai où?
Ici.
Là-bas. Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Yeah. Frères et sœurs, la maladie du sida
un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de Naka au sida? Yeah. Yé les sutra, aïe sida fanga. Chip.
Pas de chemin, pas de moussoma.
Action positive, VIH, SIDA, vous présente.
Des préservatifs?
Ouais, mais Je sais pas où ils sont.
On risque rien de toute façon.
Ben non.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez vu, nos deux jeunes amis ont décidé d'avoir des rapports sexuels non protégés, et ce, malgré les nombreux risques.
VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue, Erika et Steve, vous risquez tout ce soir.
Capote ?
Capote.
VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue, on ne joue pas avec ça, on met un préservatif.
Et oui, mesdames et messieurs, alors nous avons entendu deux noms, Knockout Sida. C'est une chanson de sensibilisation contre le VIH à Sida réalisée grâce à un financement du plan d'urgence américain pour la lutte contre le VIH à Sida par le biais de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire avec un collectif de jeunes artistes ivoiriens chantant en français et en langue locale et coordonnée par le rappeur congolais Did Jack Mounia. Et hier, justement, il y avait un grand rassemblement pour les francophones avec le groupe de travail en matière de VIH à SIDA, groupe de travail francophone. Et il y avait le centre francophone, Reflet Salvéo, APA et tant d'autres encore. Et peut-être nous ferons le point avec certains des invités qui étaient là hier. Et il y avait justement des artistes qui ont interprété certains morceaux. C'était très bien apprécié. Bien sûr, il y avait des invités de marque qui étaient là. Alors, on en parle avec les invités un peu plus tard. Et si vous voulez nous joindre tout au long de l'émission, c'est votre émission Popourri Show, 28 ans déjà, 86-946-7000, émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2015.
Thank you to everyone who made a donation during our fall membership drive. If you have yet to donate, there is still time. We still need to reach our goal of $60,000, and anyone who becomes a member before November 30th will get entered into our grand prize draws. Go to www.ciut.fm to donate and for more details. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Did you know there are now 8 different ways in which you can listen to your favorite programs on CIUT? From Barrie to Buffalo, Kitchener to Coburg, you can pick us up on 89.5 FM. We also stream online at www.ciut.fm, on Rogers Digital Cable, Channel 946, Channel 970 on Bell 5 TV, Star Choice Satellite offers CIUT on Channel 826, and you can pick us up on the TuneIn Radio app and under College and Campus Radio on iTunes. Finally, you can listen or download CIUT program archives at CIUT.fm. CIUT 89.5 FM, delivering the new sound of your city everywhere.
Vous écoutez Popourri sur CIUT 89.5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Et oui, mesdames, messieurs, émission spéciale sur 89.5 FM, CUTFM, la radio de l'Université de Toronto. Bienvenue à cette émission. Je vous rappelle, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. Plusieurs invités nous attendent. L'autotest du sida. Alors, on n'est pas obligé d'aller dans une clinique. On n'est pas obligé d'aller au centre francophone ou ailleurs pour se faire tester parce que les gens ont peur. Qui je vais voir? Qui je vais rencontrer? Alors, il y a cet outil maintenant qui existe, que vous pouvez acheter dans une pharmacie. L'autotest du sida. Qu'est-ce que c'est? Les patients et les médecins dans un centre à Paris, je pense que c'est à Saint-Denis, centre 190, en parle. Reportage avec Radio France Internationale.
Si avec aisance sur le canapé de la salle d'attente du centre de santé sexuelle, dit le 190. C'est un habitué des lieux et pour ce jeune homosexuel qui peut avoir des conduites à risque, l'arrivée en pharmacie des autotests SIDA est une bonne chose.
En termes de dépistage, c'est une très bonne nouvelle. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que le délai pour ces tests est de 3 mois après la prise de risque et pas 6 semaines comme les tests sanguins.
C'est-à-dire des tests sanguins pratiqués dans un centre de dépistage classique. Puis c'est au tour d'un homme rond d'une cinquantaine d'années de pousser la porte du 190. Pour lui, l'autotest SIDA est salutaire pour améliorer le dépistage, mais il doit être accompagné.
C'est vrai qu'un jeune qui va faire ça et qui va se découvrir séropositif comme ça, ça peut avoir des conséquences.
Un jeune homme discret se présente, il confirme cette angoisse de découvrir le résultat seul.
La peur de savoir, c'est vrai que c'est toujours... C'est vrai que pour cette maladie-là... qui est maintenant une maladie chronique, mais qui fait toujours peur quand même. Je pense que ça peut être un gros frein, en plus du prix, qui est quand même assez élevé.
25 euros.
Bah, au lieu d'une analyse qui est gratuite quoi, quand on fait, quand on a une ordonnance.
Voilà pour les patients, mais que pensent les médecins du centre de ces autotests au sida? Le docteur Michel Oyon dirige le 190. Il est formel, l'accès à l'autotest est une réponse supplémentaire qui peut être apportée à la question du dépistage, indiscutablement. Mais alors, à qui s'adressent ces autotests?
Mais je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas savoir ce qui se passe, parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver et peur de la gestion de ça face à quelqu'un d'autre. Donc pour eux, ça peut être intéressant. Il y a une autre population pour qui c'est intéressant, l'autotest, c'est les gens qui, aujourd'hui, prennent beaucoup de risques, qui sont séronégatifs, mais pour qui c'est intéressant de rapprocher les tests.
Et le médecin va plus loin, il cite une expérience menée au Kenya auprès de prostituées et de femmes enceintes.
On leur donnait des autotests qu'ils allaient donner à leurs partenaires sexuels ou à leurs clients, etc. Et c'était extrêmement intéressant, ça donnait des très bons résultats. Ils étaient distribués, utilisés, il y avait un taux de dépistage positif en plus qui était énorme avec des gens qui sont arrivés aux soins. Donc je veux dire, pourquoi pas les autotests un jour ne pourraient-ils pas servir aussi de tests proposés, administrés par les usagers eux-mêmes à l'intérieur de leur réseau, sachant que le VIH circule en réseau en général, et ça pourrait être assez intéressant.
En France, on estime que 30 000 personnes ignorent leur séropositivité.
Émission spéciale, journée mondiale de lutte contre le sida 2015. 30 ans après, où en sommes-nous? En 2014, le Bureau de lutte contre le sida, le VIH-Sida de l'Ontario, a demandé un rapport sur l'état actuel de l'épidémie de VIH chez les autochtones en Ontario. C'est pas loin, hein, c'était l'année dernière. Élaboré en collaboration avec des organismes autochtones, ce rapport sommaire présente un portrait détaillé de la façon dont les personnes des Premières Nations, les Métis et les Inuits en Ontario, sont touchées par le VIH et recommande des façons efficaces pour répondre à cette épidémie. Est-ce que ce serait pas bien d'avoir un rapport pour les francophones aussi? Qu'en dites-vous? D'ailleurs, y a-t-il une stratégie ontarienne de lutte contre le sida? Je vais en parler tout à l'heure avec mon invité qui nous attend. Il est le nouveau directeur général de Ontario AIDS Network, ancien directeur de la Société canadienne du sida, et il s'appelle Paul Lapierre. Monsieur Paul Lapierre, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être là. Je sais, c'est dimanche aujourd'hui. Hier, il y avait des activités dans la communauté et cette semaine, ça se poursuit. Vous êtes un homme très actif, hein, dans le domaine.
Oh, j'essaie d'être actif, mais très bien avec mes partenaires, mes amis, mes collègues, oui, afin d'avoir un impact positif.
Bien sûr. Ah ben, vous savez, quand j'ai annoncé votre nom hier à cette grande, ce rassemblement pour les francophones, hein, il y avait une commémoration. Et là, les gens m'ont dit, Paul Lapierre, c'est un francophone? Il est à la tête de Ontario AIDS Network? Mais c'est une chance pour nous les francophones. Est-ce vrai?
Oui, je suis d'accord avec ça. C'est une occasion rêvée de s'approcher davantage de la communauté francophone et francophile ontarienne.
Oui. Alors, parlez-nous un petit peu pour les gens qui ne sont pas habitués avec cet organisme. C'est un réseau ontarien, finalement, qui regroupe les agences qui travaillent dans la lutte pour contre le VIH. Parlez-nous un peu de la mission de Ontario AIDS Network.
On a un mandat de 3 volets. Le premier volet, c'est d'agir en tant que porte-parole au nom des organismes communautaires lutte VIH-SIDA. Notre deuxième mandat, c'est d'offrir des occasions de formation pour les organismes communautaires. Et notre troisième mandat, c'est d'organiser notre institut de leadership pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Et vous avez plusieurs agences, plus de 50 agences, je pense. Hein,
On a environ 50 membres qui sont partout en Ontario. Il y a des grands organismes comme le AIDS Committee de Toronto, mais il y a également des petits organismes communautaires qui font des interventions de prévention et d'éducation dans les différentes communautés ontariennes.
Est-ce que vous avez des organismes francophones?
On a un bon organisme francophone qui, malheureusement, est sous-financé pour l'excellent travail qu'on fait. C'est d'ailleurs une priorité pour moi de travailler avec mes partenaires pour s'assurer un financement adéquat de tous les organismes communautaires à la lutte contre le VIH-Sida.
Alors, vous aviez une grande conférence, enfin, il y avait 2 jours de travail, journée de travail, pour justement mettre les efforts en commun, les idées. Et je pense que Justement, dans l'intro, j'ai parlé, il y avait une stratégie l'année dernière qui est sortie pour les Autochtones. Enfin. Et est-ce qu'il y a une stratégie en ce moment pour mobiliser les bailleurs de fonds, justement, à bien saisir et à comprendre les défis? Parce qu'aujourd'hui, il semble qu'on ne parle pas tellement du VIH à SIDA aujourd'hui. Les gens me disent, surtout les nouveaux immigrants qui arrivent au Canada, ils disent que ici, on peut avoir du sexe et puis faire n'importe quoi sans se protéger, parce que dans mon pays, il y a des affiches. Il y a des panneaux publicitaires, mais ici, je ne vois pas d'affiches pour me dire de me protéger contre le VIH.
Vous avez tout à fait raison. Il y a un certain malaise dans la communauté. On croit ou on perçoit que le VIH est sous contrôle. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Ontario. Et un des mandats qu'on a discuté la semaine dernière lors de notre rencontre, c'est d'organiser une campagne de sensibilisation auprès de la communauté pour parler encore du VIH-SIDA. C'est loin d'être terminé. On a trois objectifs importants. Que les gens participent à des tests de dépistage, que les gens aient accès à des traitements efficaces, et ultimement, que la charge virale soit quasiment non-présente auprès des gens pour assurer une qualité de vie. Votre première question par rapport à la stratégie auprès des francophones, il n'y a malheureusement pas de stratégie. C'est un de mes dossiers prioritaires, c'est de m'asseoir avec les organismes qui œuvrent au sein de la communauté francophone, afin de mieux comprendre les besoins et qu'on développe des outils, des éléments de promotion, des éléments de sensibilisation qui vont toucher et rejoindre la communauté francophone et francophile. Mmh.
Alors, il y a du travail, donc, du pain sur la planche.
Il y a du pain sur la planche, mais il y a des excellents intervenants, il y a une bonne volonté de travailler en collaboration. Et je crois que collectivement, on va avoir un impact positif. Mmh.
Est-ce que dans vos rencontres, vos discussions avec les agences d'une façon individuelle, vous êtes là depuis quoi? 4 mois? 5 mois environ?
5 mois déjà.
Ah oui, alors, est-ce que vous familiarisez un peu avec les disparités de cette belle province de l'Ontario? Parce que vous savez, quand on vit à Thunder Bay ou bien à Kenora ou bien à Dryden ou à North Bay ou Toronto, c'est pas toujours la même chose. Hein? Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les bonnes pratiques aussi que vous pourriez peut-être nous aider plus tard à partager à travers la province de l'Ontario et aussi entre différentes cultures? Hein, parce qu'il y a, pourquoi réinventer la roue quand on sait qu'il y a quelque chose qui marche dans certaines communautés, dans certaines régions?
Lorsqu'on parle de la stratégie provinciale que le gouvernement va rendre publique sous peu, on a identifié 4 populations cibles. On parle des hommes qui ont du sexe avec d'autres hommes, les gens des Premières Nations, les gens de communautés africaines ou des Caraïbes. Et finalement, on parle la population féminine est une population prioritaire. Ceci étant dit, il faut prendre en considération la diversité ou la réalité que les gens vivent dans leur milieu. Mmh. Il y a encore, lorsqu'on parle du centre-ville de Toronto, on dit que la communauté gay est acceptée, mais dans certaines autres communautés, il y a encore beaucoup de stigma et de discrimination auprès des hommes qui s'affichent comme gays. Il y a beaucoup d'utilisateurs de drogues injectables qui ont accès à très peu de services dans des communautés rurales ou éloignées. Mm-hmm. Donc, on doit prioriser les groupes cibles, mais ceci étant dit, on doit prendre conscience de la réalité locale des différentes communautés et les éléments qui empêchent de faire de la sensibilisation ou de l'éducation. Mm-hmm. Donc, il faut être vraiment respectueux des différentes communautés, mais également savoir adapter et utiliser des outils qui sont déjà en place et qui se démontrent efficaces.
Je vais vous poser une question, peut-être vous n'avez pas la réponse, puis sentez-vous bien à l'aise de ne pas répondre si vous n'avez pas la réponse. C'est que beaucoup de gens qui se posent des questions sur le coût des médicaments et s'il y a des assurances, des entreprises, des compagnies d'assurance qui payent une partie, est-ce que le gouvernement investit pour payer, défrayer les frais, parce que ça coûte une fortune, c'est pareil, hein, ces traitements.
Ça coûte une fortune et le gouvernement provincial avec la fondation Trillium offre également beaucoup de support. Certains employeurs, grâce à leur assurance collective, ont accès aux médicaments à prix réduit. C'est quand même un fardeau pour plusieurs personnes. On doit s'assurer l'accès universel et des traitements efficaces. Et je crois que les dernières études démontrent que avec la prévention, avec l'accès aux traitements efficaces, on réduit l'impact du service des soins de la santé en s'assurant que les gens participent ou prennent leur traitement. Mais le meilleur traitement, c'est quand même la prévention.
Oui. 30 ans après, comme je disais tout à l'heure, on ne parle pas tellement du sida, on n'entend plus tellement ce sujet dans nos médias. Mais par contre, la maladie continue à faire des ravages. Et puis, il y a de la stigmatisation, vous avez mentionné tout à l'heure. Il y a des gens qui sont encore discriminés. Monsieur Paul Lapierre, en tant que directeur général de Ontario AIDS Network, vous, quelle est votre idée pour enrayer la stigmatisation dans notre communauté, surtout les gens qui sont les plus touchés par le VIH?
Sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation. On doit mettre de l'avant le discours ou de parler du VIH-SIDA. On ne doit pas limiter notre dialogue autour du 1er décembre. On doit parler du VIH-SIDA à l'année longue. On doit travailler en collaboration avec les politiciens, la bureaucratie, les bureaucrates, les gestionnaires de programmes, pour leur rappeler que le VIH continue à être une situation critique en Ontario. Mmh.
Et surtout, impliquer les gens qui sont, affectés par la maladie. Parce que dans le passé, d'ailleurs, il y avait un compte rendu, un exposé de la part de Ron Rosnes, que vous connaissez sans doute, qui parlait que dans le passé, 30 ans de cela ou avant, il n'y avait que des chercheurs, des scientifiques qui parlaient du sida. Et il a fallu vraiment qu'il y ait des changements, des batailles menées par les gens vivant avec le sida pour siéger à ces tables. Et aujourd'hui, on voit dans ces grandes conférences, comme la dernière à Vancouver, où il y avait une composante de personnes vivant avec le VIH, mais aussi des chercheurs et des scientifiques.
Oui, il faut amener autour de la table les gens qui vivent avec le virus, les gens qui essaient de survivre avec le virus, voilà. Les chercheurs, la communauté médicale, la communauté gouvernementale, également la communauté en général. On est tous des partenaires dans la lutte contre le VIH-SIDA.
Avez-vous l'espoir qu'on va trouver un vaccin bientôt?
Oh, c'est une question difficile. J'aimerais avoir la réponse.
Parce que un jour, peut-être, qui sait, en se levant, on ouvre, allume sa télévision et on voit un grand titre qu'on a trouvé un vaccin. J'espère que ce jour arrive très prochainement.
Et c'est de là l'importance de continuer à investir dans la recherche et dans le développement communautaire.
Monsieur Paul Lapierre, directeur général Ontario AIDS Network, un grand merci de la part de tout le public qui nous écoute et continue votre bon travail et on se reparle très prochainement.
D'accord, j'apprécie l'occasion. Oui. Merci et bonne journée.
Au revoir.
Te souviens-tu un soir,
un baiser sur la bouche,
gravé dans nos mémoires,
qui a changé l'histoire?
Oh, on avait peur de tout
avant même qu'on se touche,
jusqu'à fuir les regards. Du pire,
des larmes sur la joue,
sans pouvoir retenir
ce qu'on a vu partir.
La justice,
le dégoût,
la puissance entre nous,
que remplace un sourire.
L'absence d'un avenir,
désespoir qui chavire.
Kiss and Love, Kiss and Love, le single événement, madame, monsieur, qui est sorti l'année dernière. Plus de 120 artistes se sont mobilisés et ils continuent leur combat à leur façon. Ce single est disponible sur l'ensemble des plateformes digitales. Vous pouvez télécharger comme vous voulez. Alors vous allez sur www.sidaction.org pour tout savoir. J'adore cette chanson et nous allons entendre d'autres chansons génériques encore. VIH, SIDA, on continue l'émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2015. Nous avons entendu Paul Lapierre. Il a bien parlé de certaines stratégies pour les francophones qu'il aimerait voir mettre en place ici à Toronto, mais aussi à travers la province. C'est à voir. Nous allons avoir Michael Bailey, directeur de programme de sensibilisation et d'éducation à l'agence canadienne CATI, et peut-être Jean-Roch Boutin, qui est un des membres fondateurs d'Action Positive VIH SIDA, le seul organisme exclusivement dédié à combattre le VIH à Toronto. Et puis nous allons avoir Fanta Ongoiba, directrice générale Africans in Partnership AIDS Against AIDS, APA. Valérie Pierre-Pierre aussi qui nous écoute, qui sera là avant la fin de l'émission. Elle est directrice générale du Conseil des Africains et Caribéens sur le VIH à SIDA en Ontario. Alors, je vois qu'il y a plusieurs initiatives que je reçois depuis que j'ai lancé l'invitation à des gens sur Facebook, mais aussi Twitter. Alors, on me parle d'une initiative à Toronto qui s'appelle « Es-tu un baller ?» Baller, baller. Alors, baller, baller. C'est B-A-L-L-E-R. Baller, sans doute. Qui a été mise en œuvre cette année dans une banlieue mal desservie de Toronto visant à faire participer de jeunes hommes racialisés provenant d'un milieu urbain et âgés de 15 à 18 ans à des conversations sur le VIH en utilisant le langage du baller. Baller, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argot, ça me semble. Je vais essayer de poser la question à mon invité. Je pense qu'elle est là. Elle attend, elle est très patiente. Alors, c'est la première fois d'ailleurs, je pense, à Fanta Ongoiba, directrice générale African in Partnership Against AIDS. Bonjour madame.
Bonjour Eric.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va très bien, on vous a manqué hier, hein? Il y avait un grand rassemblement réunissant des francophones. Oui, mais quand même, il y a des gens de votre agence qui ont bien parlé pour défendre la couleur de APA.
Ok, merci.
Alors justement, ça c'est intéressant parce que vous êtes arrivé un peu par accident comme directrice générale de cet organisme parce que dans les années 80, je pense, il y avait des gens, des Africains surtout, qui mouraient du sida.
Oui.
Et vous, parce que vous étiez connue dans la communauté, les médecins, les cliniques faisaient appel à vous pour interpréter, n'est-ce pas?
Oui, Eric, tu as tout à fait raison. Donc, à l'époque, le VIH était peu connu. Et puis, les gens mouraient de ce fléau. Et quand les gens étaient à la dernière phase, ils commençaient à parler leur langue maternelle. Donc, les médecins étaient confus et ils se cherchaient. Ben, tout d'un coup, comme ça, les gens commencent à parler leur langue. Comment ils vont faire? Donc, ils ont commencé à chercher dans les bottins téléphoniques pour voir les noms qui ressemblent aux noms africains. Et puis, appeler et voir si ces gens peuvent les aider. Donc, c'est ainsi de suite que nous sommes parvenus à être, comme tu as dit, le parcours nous a amenés sur ce chemin.
Dans votre jeunesse, quand vous alliez à l'école, à l'université, vous n'aviez aucune idée qu'un jour, vous allez atterrir dans ce domaine-là, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait raison. Mon rêve, c'était d'être médecin. Mais comme tu le sais, on le dit souvent au pays, les parents guident les enfants, c'est pas les enfants qui choisissent leur destinée en termes de carrière. Donc, on m'a enlevé de ce domaine dont j'ai tant rêvé. Et puis, j'ai satisfait les besoins des parents qui étaient de faire l'économie et la gestion.
Vous parlez de quelle langue dans votre culture? Parce que vous êtes du Mali.
Oui.
Alors, quels sont les dialectes, les langues que vous parlez?
Ben, je parle un peu plus de 4. Mais c'est un peu varié. Je parle le Dogon, je parle le Bambara, je parle un peu le Peul, je parle aussi un peu le Tamasek.
Alors, dans les années 80, la provenance, la majorité, disons, de ces gens qui étaient malades de la communauté africaine était en provenance de quel pays?
À l'époque, la plupart, c'était en provenance du Congo. ou Zaïre, en tout cas, le Congo démocratique. Et puis, c'était cette catégorie qu'on voyait beaucoup. En plus de cela, il y avait aussi l'Éthiopie. Donc, c'était les deux catégories. Et ainsi de suite, ça a commencé à ajouter des communautés telles que la Somalie et puis des Caraïbes aussi.
Alors, que fait APA? Quelle est la mission, le mandat d'APA?
Le mandat d'APA, c'est de travailler pour la réduction du taux d'infection du VIH-SIDA dans la communauté africaine et dans un contexte culturel et linguistique.
Alors, vous avez un bureau, vous avez des gens qui sont là, qui travaillent. Vous avez un site web d'ailleurs que j'ai envoyé au monde entier aujourd'hui, www.apaa.ca. Faut bien dire aux gens que vous êtes financé par le gouvernement de l'Ontario, le bureau de lutte contre le sida.
Oui.
Mais ce qui est intéressant chez vous, vous n'êtes pas un service pour les francophones, mais il y a beaucoup de francophones qui fréquentent votre service parce que c'est sans doute la directrice générale, Fanta, qui est très impliquée aussi dans pas seulement les communautés anglophones, mais la communauté francophone. Donc, ça apporte une certaine clientèle chez vous, n'est-ce pas?
Exactement. Donc, APA est unilingue, mais on essaie de faire que ça soit désigné comme une organisation bilingue. On est en train de travailler sur ça. Ça n'a pas encore vu le jour. Mais comme on le dit, moi étant francophone, venant de l'Afrique, et puis avoir ce travail dans le cœur, avoir l'amour d'aider, et puis le sentiment d'être incapable de faire ce que je veux faire au fond de moi-même, c'était de trouver que, en tant que francophone, de servir aussi les francophones. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Action Positive, il faut se rappeler de ça. Pour pouvoir envoyer. Il y avait le centre francophone, mais le centre francophone aussi ne travaillait pas dans le domaine du VIH-SIDA en ce temps-là. Donc, ils ont commencé à faire le dépistage, ce qui nous a beaucoup aidé. Et puis, mais il n'y avait pas le support pour les personnes qui sont infectées par le VIH-SIDA. Donc, APA était là. Et moi, en tant que francophone, je me proclame pas bilingue totalement, mais je peux dire que je me débrouille aussi en anglais pour pouvoir servir les anglophones aussi bien que les francophones. Donc, on dit dans un adage, comment on dit là, le bienfait commence par soi-même.
Mais, alors, il y a quelques bailleurs de fonds qui trouvent que vous avez des méthodes quand même qui sortent un peu de l'ordinaire. Tant mieux, tant mieux. Alors, une des bonnes pratiques, c'est que vous allez dans les mosquées.
Oui.
Pour parler du VIH dans les mosquées. Donc, il y a des imams à Toronto qui acceptent de vous rencontrer. Premièrement, vous êtes femme.
Oui.
Et puis vous allez dans les mosquées pour parler du VIH. En deux mots, comment ça se passe? C'est un miracle. C'est quoi votre secret?
Ben, moi, je dis toujours, quand tu veux connaître le fond de la brousse, il faut toujours y aller.
C'est très africain, ça.
Ça, c'est africain. Donc, il faut se faire des amis partout. Au lieu de se faire des ennemis ou avoir des idées préconçues. Parce que le plus souvent, on parle de stigma ou stigmatisation. Je pense que le stigma est en nous-mêmes, au lieu que ça soit à l'externe, mais c'est à l'interne.
Non, mais un imam qui accepte de vous recevoir pour parler du sida, du VIH-sida dans sa mosquée, il faut le faire. J'ai pas entendu ça souvent dans mes rencontres à travers le monde. C'est vraiment unique.
Je sais, comme j'ai dit, c'est l'approche. L'approche est différente parce que je fréquente les mosquées, je parle aux gens, je m'intéresse à ce que les gens font. Et en faisant comme ça, j'inclus mon sujet aussi, et pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça a pris quelque temps, mais comme tu as dit là, c'est une bonne chose, et puis c'est quand même la première fois que des choses comme ça arrivent. Les imams acceptaient de parler du VIH-SIDA, et même au-delà de ça, parce que s'impliquer et faire un projet ensemble dans la mosquée pour toute une année, et faire sortir un pamphlet d'information pour les imams, et ce qui pourra servir aussi pour les prêtres et toute la couche religieuse.
Je pense que je vais aller voir. Je vais aller voir mon évêque et le pape. Je vais essayer de voir s'ils sont prêts à accepter qu'on parle du VIH dans les églises. En tout cas, si vous nous donnez des idées là. Et je dois malheureusement vous laisser parce qu'il y a plusieurs invités. Je vous remercie encore mille fois et bravo pour le bon travail. Je
merci
sais que vous avez
beaucoup,
toujours
Eric.
Besoin
merci,
du support.
Merci
moi, j'aimerais qu'on revienne pas seulement le premier à la
tous
proche.
Tous les jours, ça tout, doit se faire
exactement,
tous les jours.
Exactement,
exactement. Tous les jours, pas seulement un jour.
Voilà. Et
voilà.
Puis,
ce donc, que, ce... quand tu pars voir le pape, là, amène-moi avec toi. On va le convaincre.
Ah, le pape, il est moderne. Hein. Il vient de sortir un single là, qui fait tabac dans les réseaux sociaux depuis ce matin. Alors, moi, je pense qu'il sera prêt à nous rencontrer pour parler VIH. Je suis convaincu.
Et ça, c'est vrai.
J'aimerais qu'on revienne plus tard, d'ici quelques semaines, quelques mois,
oui.
pour parler des hommes qui ne sont pas homosexuels, qui sont des hommes mariés
oui.
et qui sont infectés du VIH. Et tout ce problème de dialogue dans leur famille, leur couple, leur partenaire, la famille. Et là, je sais que vous avez un travail intéressant que vous faites auprès de ces couples qui sont infectés.
Oui.
Parce que souvent, les gens pensent que c'est une maladie uniquement chez les homosexuels. Or, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'hommes mariés, africains, caribéens, canadiens, de toute origine, qui ont aussi le VIH.
Le VIH, c'est alors, ça, les hétérosexuels qui sont oubliés.
Voilà.
Il faut qu'on en parle.
Oui, on en parle. Alors, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Eric.
Et puis, continuez votre bon travail. On
merci
se reparle
beaucoup.
Très prochainement. Au revoir.
Et bonne continuation de ton émission. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Join us in celebrating a great year of community radio at the CIUT Holiday Party. Friday, December 4th at the Transat Club. Doors open at 6 p.m. and the party will run all night. Entertainment for the evening includes musical performances from the Fugitive Minds and the Out of Towners. A burlesque performance from Scarlett Laplem and a DJ set by DJ Nico, plus more to be announced. Entry is free for members and $10 for anyone else. Friday, December 4th at the Transat Club, the CIUT Holiday Party. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5, the sound of your city. Toronto.
Action positive, VIH, SIDA présente.
Des préservatifs?
Ouais, mais je sais pas où ils sont.
Où est-ce que, de toute façon?
Mais non.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez vu, nos deux jeunes amis ont décidé d'avoir des rapports sexuels non protégés, et ce,
malgré les nombreux risques.
VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue.
Erika et Steve,
vous risquez tout ce soir.
Capote.
Capote.
VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue. On ne joue pas avec ça. On met un préservatif.
Ne tue plus, mais il vous complique la vie. Si vous avez la chance de vivre ici, plus de soutif, ni de calcif. Je vous l'ai dit, il fallait penser au préservatif. Elle et lui restent dans la chambre, une fois plus que se détendre. Pas à pas, elle se dit qu'elle a le sida. La première chose qu'elle fit, c'est le dire à maman, maman.
On a crié comme un galère, on a pas faire. Car le sida nous court derrière. Pas moyen de le guérir. Il ne pas le savoir au lieu de souffrir. On a crié comme un galère, on a pas faire. Car le sida nous court derrière. Pas moyen de le guérir. Il ne pas le savoir au lieu de souffrir.
Se protéger, Mélissa ne voulait pas. Elle franchit le grand pas, mais pourtant le sida la rattrapa. Sa mère lui dit, protège-toi ma fille. Mais malgré ça, elle tomba bien bas et perdu 10 kilos en un mois. Malgré les progrès, les remèdes n'évoluent pas. Ralentissent le trépas du SIDA. L'idée à développer, préserver la vie. Elle était prête à y mettre le prix. Vaut mieux 50 cents que d'y laisser sa vie.
On a crié comme un galère, on a pas fait faire. Car le sida nous court derrière. Pas moyen de le guérir. Tout est faire et ne pas le savoir au lieu de souffrir. On a crié comme un galère, on a pas fait faire. Car le sida nous court derrière. Pas moyen de le guérir. Tout est faire et ne pas le savoir au lieu de souffrir.
Voici l'histoire d'un garçon qui suivait ses amis. Lorsque rien qui se sont passés, il les a bien punis à cause d'une maladie transmise à sa petite amie. Ils étaient dans leur lit pour faire un petit avec qui ils font leur vie. Donc ils ont fait clic, clic, pic, pic, six, six, madame, pix, pix. Ne le transmets pas, reste fixe et ne fais pas de conneries prolix.
Vous écoutez une émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2015, 30 ans après. Où en est-on aujourd'hui? Et je vous rappelle qu'il y a plusieurs activités qui se passent dans la région de Toronto. Hier, entre autres, il y avait une journée commémoration avec plusieurs agences, organismes, le groupe de travail VIH francophone à Toronto. C'était un succès. Et beaucoup de gens de différentes communautés étaient présents. Et je vous rappelle que le 1er décembre, mardi, il y aura une commémoration intime et repas d'amitié organisé par les membres du conseil d'administration d'Action Positive VIH SIDA Toronto. Et il y aura des alliés, des amis qui vont se recueillir au monument de commémoration VIH SIDA au Barbara Hall Park. C'est pas loin de 519 Rue Church. Et après ça, les gens descendront pour prendre un repas ensemble à la Rue Church. C'est sur invitation uniquement. Et toujours le 1er décembre, à 17h, il y aura une émission spéciale sur la lutte contre le sida réalisée par l'agence, l'organisme Reflet Salvéo, en partenariat avec la radio communautaire Choc FM 105.1. L'émission donnera la parole à des représentants, des représentantes d'importantes organisations de la communauté, dont Action Positive, VIH Sida, le Centre francophone de Toronto, APA, CATI et le réseau juridique canadien VIH SIDA seront abordés. La journée mondiale de lutte contre le sida, la situation à Toronto, la criminalisation du VIH SIDA et le dévoilement, la prévention et les risques, ainsi que la situation internationale, avec en particulier l'espoir généré par les résultats prometteurs des traitements en Afrique. Toujours le 1er décembre, très tôt dans la matinée, je pense à partir de 6h50, plus précisément à l'antenne de Radio-Canada, à l'émission « Il n'y a pas deux matins pareils », Action Positive fera une intervention. Toujours ce même mardi matin à 7h20, cette fois-ci, Action Positive fera une intervention à la radio, l'émission du matin de Radio-Canada à Windsor. Et puis, dans l'après-midi ou le soir en soirée, le 1er décembre, à 18h, il y aura un reportage téléjournal de Radio-Canada. Et là aussi, les membres d'Action Positive feront une apparition dans les bulletins de téléjournal de Radio-Canada, mardi prochain à 18h, à ne pas rater. Et enfin, le 10 décembre, à partir de 19h, il y aura une soirée de levée de fonds, Lady Marmalade, c'est le premier cocktail Lady Marmalade. On vous invite à venir en grand nombre. C'est une façon d'aider les membres les plus vulnérables vivant avec le VIH à SIDA. Action Positive est l'organisateur de cette soirée avec plusieurs alliés et des amis. Et nous avons besoin des fonds pour aider justement des personnes dans le besoin à la fin de l'année. Et comme vous savez, il y en a beaucoup qui vivent dans la solitude, qui n'ont même rien à manger et à boire. Alors on espère offrir des billets d'épicerie, des cartes d'épicerie pour aider les gens dans le besoin. Et on vous invite donc à être nombreux le 10 décembre prochain au bar Church on Church, 504 Rue Church, à partir de 19h. Et nous remercions tous les danseurs, les drag queens et surtout le directeur artistique Normand Babin qui bénévolement monte ce spectacle pour nous, madame, monsieur. Alors voilà une belle façon de venir aider les gens dans le besoin. Si vous avez des activités qui se passent dans votre région ou bien dans votre communauté, Vous nous appelez, la ligne est ouverte actuellement, c'est le 416-946-7000, Popourri Show. Toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Romain s'est assis avec aisance sur le canapé de la salle d'attente du centre de santé sexuelle, dit le 190. C'est un habitué des lieux, Et pour ce jeune homosexuel qui peut avoir des conduites à risque, l'arrivée en pharmacie des autotests SIDA est une bonne chose.
En termes de dépistage, c'est une très bonne nouvelle. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que le délai pour ces tests est de 3 mois après la prise de risque et pas 6 semaines comme les tests sanguins.
C'est-à-dire des tests sanguins pratiqués dans un centre de dépistage classique. Puis c'est au tour d'un homme rond d'une cinquantaine d'années de pousser la porte du 190. Pour lui, l'autotest SIDA est salutaire pour améliorer le dépistage, mais il doit être accompagné.
C'est vrai qu'un jeune qui va faire ça et qui va se découvrir séropositif comme ça, ça peut avoir des conséquences.
Un jeune homme discret se présente, il confirme cette angoisse de découvrir le résultat seul.
La peur de savoir, c'est vrai que c'est toujours... C'est vrai que pour cette maladie-là... qui est maintenant une maladie chronique, mais qui fait toujours peur quand même. Je pense que ça peut être un gros frein, en plus du prix.
Qui est grand.
Sur quelle planète suis-je tombée ?
La planète Terre.
Bonjour. RSI.
RFI, on en fait tout un monde.
À ne pas rater, madame, monsieur, Lady Marmalade, le 10 décembre à Toronto. C'est au bar Church on Church 504, Rue Church à Toronto, organisé par Action Positive. Ah, ne pas rater, madame, monsieur, ça va chauffer au bar Church on Church 504 Church le 10 décembre prochain pour une bonne cause avec la drag queen Jessica Carlyle et le danseur Cheyang Adelam et DJ Gray Dominic. Et ils mettront le feu aux poutres avec leur rythme coquin. Et tout ça sous la direction artistique de Normand Babin. Le 10 décembre à 19h. La cocktail marmalade vous attend. Vous écoutez une émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2015, 30 ans après, où en sommes-nous ? L'ingénieur du son est DJ Devera, production et animation Eric Ader. Vous pouvez nous écouter tous les jours si vous voulez, www.cut.fm, ou encore vous pouvez télécharger l'émission qui se joue en ce moment au courant de la semaine. Nous avons entendu Paul Lapierre, directeur général de Ontario AIDS Network, Fanta Ongoiba, directrice générale African in Partnership Against AIDS, et nous allons aussi parler à Valérie Pierre-Pierre, qui est directrice générale au Conseil des Africains et Caribéens sur le VIH-SIDA en Ontario. Ils font des études, des recherches, ils ont des ressources extraordinaires, mais il y a aussi d'autres sources de ressources, si vous voulez, alors on en parle tout à l'heure. Et enfin, je vais accueillir pour la première fois d'ailleurs quelqu'un de cette agence canadienne qui s'appelle CATI, Michael Bailey, directeur de programme de sensibilisation et d'éducation, qui est là avec nous. Bonjour, Michael.
Bonjour, Eric.
Ça va ?
Oui, très bien, merci.
Oui, très bien. Alors, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Premièrement, il faut rappeler aux gens que vous êtes une agence pan-canadienne. Vous existez, vous avez des bureaux un peu partout à travers le pays, n'est-ce pas ?
On a un bureau en Ontario, ici à Toronto, mais on a des éducateurs qui sont dans chaque région du Canada, alors une au Québec et ici en Ontario. Mmh.
Que fait Cathy? Quelle est la mission? Quel est le mandat de Cathy?
Oui, alors Cathy, c'est démarré plus de 25 ans maintenant, et c'était les personnes vivant avec le VIH qui partageaient des informations avec d'autres personnes vivant avec le VIH. Et, c'était avant qu'il y avait les médicaments qu'on a maintenant, alors c'était un bon moyen pour le monde de se tenir en bonne santé. Mais notre mission, c'est on est la source d'information à jour et impartiale sur le VIH au Canada. Mmh. Alors notre but est de partager les connaissances, les ressources et l'expertise avec les personnes vivant avec le VIH, les communautés à risque, les fournisseurs de soins de santé et les organismes communautaires.
Et vous êtes financé par le gouvernement provincial et fédéral?
Oui. Mmh.
Alors, oui. Combien de gens travaillent justement dans votre agence à travers le pays?
On a 35 personnes. Mmh.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même des pages bien traduites et adaptées pour les francophones. Et ça, c'est la mission même de Cathy, de s'assurer qu'il y ait des informations de qualité disponibles dans les deux langues officielles, oui?
Oui. Alors, on a beaucoup d'informations en ligne, et c'est en français, en anglais. On a aussi on a un centre de distribution des publications sur le VIH, l'hépatite C aussi, et aussi sur la santé sexuelle. Et on s'assure que c'est en français et en anglais. Et assez souvent, pour remplir des lacunes, c'est des ressources qui sont en français, qui sont traduites vers l'anglais.
Mmh. Je suis tellement heureux de vous parler parce que dans ma tête, je ne pensais pas qu'il y avait tant de personnes qui parlaient français chez vous. Quand j'ai rencontré votre directrice générale, Laurie, cette semaine,
Oui. Et
tout de suite, elle m'a dit, mais non, nous avons des personnes qui parlent très bien français et Michael est la personne pour toi. Alors, si vous allez sur le site, madame, monsieur, vous qui nous écoutez à la maison ou là où vous soyez, vous allez www.cathie.ca. Ce qui était assez intéressant, c'est que le contenu du web est organisé en sections portant sur des sujets très importants comme la prévention, le traitement, vivre en santé. Et tout ça aide, facilite les visiteurs à se diriger vers l'information dont ils ont besoin, n'est-ce pas?
Oui. Et aussi, notre centre de distribution, c'est gratuit pour tout le monde. Si on a besoin de ces publications pour nos organismes ou pour les fournisseurs de soins ou pour les personnes vivant avec le VIH, alors il y a plus que 500 publications maintenant.
Oui, et puis il y a des études. Hein. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, ce sont les ressources et des études de cas qui aide les fournisseurs de services de première ligne à élaborer, exécuter des programmes à l'attention de leurs clients. Et ça, ça coûte cher quand on doit développer ces études de cas ou encore des programmes. Alors là, ça, c'est une ressource très importante qui aide les petits organismes surtout. Hein?
Oui, justement, c'est des programmes clés qui pourraient être utile à développer d'autres programmes pour les plus petits organismes.
Mmh. Est-ce que dans tout le travail de sensibilisation que vous faites, est-ce que vous voyez qu'il y a eu un changement dans la mentalité des gens face au VIH?
Oui, il y a toujours la stigmatisation et la discrimination, mais depuis quelques années, on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles informations qui sont là et tous les morceaux sont là maintenant pour combattre le VIH. Mmh.
Vous savez, il y a quelques mois de cela, j'ai rencontré quelques personnes dans la communauté francophone. J'étais vraiment renversé de ma chaise quand une dame a dit « Est-ce que en parlant, serrant la main, en travaillant ou en mangeant avec une personne séropositive, je peux attraper le virus ?» Un autre a dit « Par la toux, les éternuements, est-ce que je peux l'attraper ? Est-ce que si je me lance dans une piscine où une personne portant le virus est là, est-ce que moi je peux l'attraper, cette maladie ?» Un autre a dit « Par est-ce que si je vais dans une toilette et je m'installe sur les sièges de tes toilettes ou des fontaines publiques, est-ce que je peut l'attraper. » Non, mais j'ai trouvé ça vraiment l'ignorance qui existe encore chez les gens. Comment expliquer qu'en 2015, il y a certains groupes dans certaines communautés qui connaissent mal encore sur la transmission de cette maladie et sur pourquoi cette peur?
Oui, c'est vrai que c'est étonnant en 2015 qu'il y a toujours du monde qui croit qu'on peut attraper le VIH par ces moyens-là. Et je pense c'est dû aux stigmatisations du monde. On a une idée, c'est qui va être séropositif et on juge.
Alors Michael, merci beaucoup d'avoir été là et je demande aux gens d'aller nombreux naviguer. C'est très simple, c'est pas cher, c'est très intéressant, c'est coloré. Je trouve que c'est user friendly comme on dit en anglais. Alors bravo à toute votre équipe, Jim Pollock, je pense à qui j'ai parlé, à Laurie aussi, à toute votre équipe. Et j'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble. Comme je dis aux gens, c'est pas seulement le 1er décembre à chaque année qu'il faut parler du VIH à SIDA, mais c'est tout au long de l'année. On peut faire des émissions, on peut faire des campagnes de sensibilisation. Il y a des chansons, il y a des thèmes, des concours qu'on peut lancer pour sensibiliser les gens. Est-ce que vous avez du matériel pour les jeunes? Parce que là, il y a un professeur qui vient de m'envoyer un texto qui dit, est-ce qu'il y a des programmes ciblant les écoles secondaires?
Oui, on a plusieurs publications et c'est pas juste produit de Cathy, mais on fait la distribution d'autres organismes, mais dans le centre de distribution, il y a un lien sur le site web, il y a ces publications-là, il y a un petit résumé qui disent c'est pour quel âge et quelle population.
Alors, ben, je vous remercie beaucoup, Michael Bailey, madame, monsieur, qui est avec nous, que vous allez sans doute entendre, j'espère encore, et vous parlez très bien français. Continue. Merci. Vous faites honneur à la communauté francophone. Michael Bailey, directeur de programme de sensibilisation et d'éducation à Cathy, et il est ici, lui, dans la région de Toronto, et vous pouvez aller sur leur site www.cathy.ca et les informations sont disponibles en anglais et en français. Merci et bonne journée. Hein.
Et à vous aussi.
Au revoir. Au revoir. Voilà, madame, monsieur, vivre avec le VIH, témoignage, CUT 89,5 FM, émission spéciale.
Notre limite, elle n'est pas d'ordre de la molécule, du médicament qu'on donne, elle est de l'ordre de l'accès aux soins, de l'alliance thérapeutique qu'on fait entre les soignants et les patients, de tout ce qu'on construit pour arriver à prendre les médicaments. Ce n'est pas la nature des médicaments.
Si l'enjeu aujourd'hui n'est pas la nature des médicaments, quel est-il? 8 patients ont accepté de nous raconter leur vie avec le VIH. Des souffrances.
Émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2015. C'est le 1er décembre, hein, chaque année. 30 ans après, où en sommes-nous? Pour nous joindre, 86 946 7000. C'est historique, c'est inspirant, les données probantes qui n'ont cessé de s'accumuler au cours des dernières années dans le domaine du traitement et de la prévention du VIH sont si importantes que certaines personnes les ont qualifiées de révolutionnaires. Oui, présentées lors de la conférence de la Société internationale sur le SIDA de cette année à Vancouver, les nouveaux renseignements que nous possédons modifient à jamais les perspectives pour la santé des personnes vivant avec le VIH, leur partenaire et la communauté en général. Ce que nous savons à l'heure actuelle, il est avantageux pour les personnes vivant avec le VIH de commencer le traitement aussitôt que possible après leur diagnostic, à la fois pour leur propre santé et celle de la communauté. De nouvelles recherches nous indiquent que l'utilisation précoce et à long terme d'une thérapie antirétrovirale, TAR, par les personnes vivant avec le VIH est synonyme de meilleure santé et d'une espérance de vie presque normale. De plus, lorsque la TAR est utilisée régulièrement et correctement, la charge virale devient indétectable et le risque de transmettre le VIH à une autre personne peut être réduit de 90% ou davantage. Face à ces données probantes, irréfutables, l'Organisation mondiale de la santé a dernièrement annoncé de nouvelles lignes directrices recommandant que toute personne vivant avec le VIH commence la thérapie antirétrovirale, peu importe la phase de son infection. Les autorités aux États-Unis et au Royaume-Uni ont publié des lignes directrices semblables et l'Organisation mondiale de la santé a également publié de nouvelles lignes directrices basées sur des données probantes relativement aux services de dépistage du VIH, précisant que les avantages de la thérapie ne peuvent se réaliser pleinement que si les personnes vivant avec le VIH reçoivent un diagnostic. Donc, l'OMS adhère également à l'utilisation quotidienne de la prophylaxie pré-exposition, plus connu maintenant connu sous le terme de PrEP, par voie orale, pour les personnes séronégatives afin de prévenir l'infection. Des études ont démontré qu'un médicament anti-VIH, le Truvada, est très efficace pour prévenir l'infection lorsque ce dernier est pris régulièrement et correctement. Donc, nous espérons que la disponibilité de ce médicament s'améliorera grandement la vie, la santé des gens qui sont atteints du VIH. À la suite d'une campagne du mois d'avril de cette année menée par l'organisme Health Initiative for Men, basé à Vancouver, le fabricant de Truvada, Gilead, a demandé à Santé Canada d'autoriser le médicament pour qu'il soit utilisé comme PrEP au Canada, comme il l'est aux États-Unis. Bien que nous attendions encore cette autorisation, il est tout de même possible pour les fournisseurs de soins de santé de prescrire le Truvada comme PrEP pour une utilisation non indiquée.
Donation during our fall membership drive. If you have yet to donate, there is still time. We still need to reach our goal of $60,000, and anyone who becomes a member before November 30th will get entered into our grand prize draws. Go to www.ciut.fm to donate and for more details. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto. Sound of your city.
Vous écoutez une émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida édition 2015, 30 ans après, où en sommes-nous? Vous êtes bien à l'antenne de CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Et oui, en ce dimanche 29 novembre, et nous avons plusieurs invités qui sont passés, et malheureusement, on a décalé un peu notre horaire, mais je pense qu'il y avait des informations très pertinentes et importantes. Et cette fois-ci, sans plus tarder, madame, monsieur, je vais passer au Conseil des Africains et Caribéens sur le VIH à SIDA en Ontario, plus connu sous le nom de CACVO, qui assure le leadership dans la réponse au VIH à SIDA au sein des communautés africaines, caribéennes et noires de l'Ontario. Sa directrice générale est avec nous aujourd'hui, Valérie Pierre-Pierre. Bonjour.
Bonjour Eric.
Oui, alors merci beaucoup d'être avec nous. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup d'intérêt. Ça prouve qu'il ne faut pas parler de VIH à SIDA seulement le 1er décembre, mais c'est un sujet qu'on devrait aborder à l'année longue, n'est-ce pas?
Tout à fait d'accord.
Oui. Alors, parlez-nous un petit peu justement du mandat de la mission de CACVO.
D'abord, je veux vous remercier, Eric, de me donner l'opportunité de parler du CAGVO. Merci beaucoup pour ça. Et ce que je voulais dire, c'est que le CAGVO est un organisme, ou une coalition plutôt d'organismes et d'individus qui sont dédiés à tous les aspects de la réponse au VIH au sein des communautés africaines, caraïbéennes et noires de la province de l'Ontario. Lorsque je parle de tous les aspects de la riposte, je fais référence, bien sûr, au traitement, au soutien, à la prévention, à l'éducation, à la recherche et au plaidoyer, bien sûr.
Les gens qui nous écoutent souvent se posent la question, oui, on dit qu'il y a des populations cibles, mais est-ce que vous avez chez vous, à votre niveau, des statistiques, des études pour démontrer justement les enjeux, mais aussi des chiffres sur des personnes africaines, caribéennes atteintes du VIH?
Oui, nous avons des données épidémiologiques, il y a de la recherche qui se fait à ce niveau, ce qui nous permet de tenir du soutien du gouvernement pour soutenir, pour financer le travail que nous faisons.
Alors,
par exemple, dans la province de l'Ontario, la population noire, les gens provenant de l'Afrique, des Caraïbes et qui sont ici depuis des générations, représentent moins de 5% de la population. Et pourtant, ils représentent à peu près 20% des cas de personnes qui vivent avec le VIH. Donc, ça permet d'établir que les personnes des communautés noires sont affectées de façon disproportionnelle comparée à d'autres populations.
Alors, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes?
Oui, oui. Nous parlons d'hommes, de femmes, de jeunes, d'anglophones, de francophones, d'hommes qui ont des relations avec sexuelles avec d'autres hommes. On parle de gens qui s'identifient comme étant hétérosexuels, etc. Donc toute sous-population incluse lorsque je fais référence aux personnes africaines, caraïbéennes et noires.
Oui. Il y a encore beaucoup de tabous aujourd'hui, Valérie Pierre-Pierre, chez ces populations, parce qu'on sait qu'en Haïti, par exemple, on a été témoin de certains drames terribles où des homosexuels ou des gens atteints du sida se sont fait lyncher dans la rue, en public. Comment ces gens parlent du VIH quand ils sont atteints à leur famille, à leurs proches? Est-ce qu'il y a une stratégie de dévoilement, justement, dans ces communautés?
Ce ne sont pas toutes les personnes qui se sentent capables de pouvoir dévoiler leur statut sérologique à leur famille ou à leur entourage immédiat à cause de la stigmatisation, à cause de la stigmatisation et la peur d'être rejeté ou d'être mis à part. Ce qui arrive malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas toutes les informations en ce qui concerne le VIH-SIDA, ce que c'est, comment on peut transmettre le VIH-SIDA. Et donc, ce manque d'informations et aussi des informations ou perceptions erronées que les personnes peuvent avoir par rapport au VIH-SIDA, qui est un environnement où les personnes vivant avec le VIH ne se sentent pas nécessairement capables de dévoiler leur statut dans un environnement où ils se sentiraient en sécurité. Il y a plusieurs stratégies pour dévoiler son statut sérologique. Il n'y a pas une stratégie qui est la bonne stratégie. Les stratégies varient d'une personne à l'autre, d'un environnement à l'autre. Ça dépend aussi des personnes à qui on veut dévoiler son statut. Mais il y a des organismes de lutte contre le sida à travers la province qui peuvent fournir un soutien aux personnes qui désirent dévoiler leur statut sérologique. Et ça inclut vraiment se poser des questions à savoir est-ce vraiment nécessaire de dévoiler son statut sérologique? Quels sont les risques si jamais on dévoile son statut? Dans quelles circonstances, dans quel environnement voudrait-on que le dévoilement se passe? Tout ça pour assurer la sécurité de la personne qui prévoit dévoiler son statut.
Oui. Alors, je rappelle aux gens, madame, monsieur, nous avons le plaisir d'accueillir en ce moment même Valérie Pierre-Pierre, qui est directrice générale, qui parle français. Vous êtes un centre où votre site web aussi est en français et en anglais. Bravo. Le Conseil des Africains et Caribéens sur le VIH SIDA en Ontario, qui n'est pas un service direct, mais par contre, il soutient par son leadership, par ses études, par vos ressources. Vous essayez d'appuyer les agences qui offre des services ou les travailleurs qui travaillent justement à proximité avec les personnes vivant avec le VIH. Donc, vous avez l'œil et peut-être les oreilles des bailleurs de fonds. Est-ce qu'on vous prend au sérieux quand vous arrivez avec certaines études et des données probantes?
Oui, on nous prend au sérieux. D'ailleurs, le CAGVO, depuis le départ, avait le soutien du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de la province de l'Ontario. Et jusqu'à présent, nous avons encore leur soutien. Nous avions aussi à l'époque, et nous l'avons encore, le soutien de l'Agence de santé publique du Canada. Donc, nous avons les bailleurs de fonds et les instances gouvernementales de notre côté en ce qui concerne le travail que nous faisons avec les populations africaines, caribéennes et noires, qui d'ailleurs ont été identifiées par les gouvernements, les instances gouvernementales, comme des populations prioritaires. Il y a plusieurs populations prioritaires en Ontario et les populations noires en sont une. Il y a aussi les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Il y a aussi les personnes qui viennent des autochtones ou les personnes des Premières Nations, les personnes qui utilisent des drogues ou des autres substances et les femmes.
Il y a une population qu'on ne parle pas assez souvent, mais par contre, certaines agences disent qu'il y a des gens de cette communauté, de ce groupe qui frappe à la porte, c'est la communauté trans. Et dans la communauté noire, est-ce qu'il y a des sous-groupes, justement, comme la communauté trans, qui n'arrivent pas à se faire entendre?
Oui, malheureusement, c'est le cas. Mais nous espérons, dans nos efforts, dans notre travail, pouvoir mieux satisfaire aux besoins ou répondre aux besoins des communautés trans, que ce soit des hommes trans, des femmes trans, parce que malheureusement, il y a toujours des groupes qui sont délaissés ou qui sont oubliés. Donc, nous savons que ces populations existent au sein des sous-groupes existent au sein des populations noires et nous tentons de créer des stratégies pour vraiment les rejoindre et répondre à leurs besoins.
Alors, je rappelle aux gens qu'en décembre 2008, il y avait de nouvelles statistiques qui sont sorties. Il est estimé que 26 627 personnes vivaient avec le VIH en Ontario en 2008. Et de ce nombre, 4 878 étaient répertoriés dans la catégorie VIH endémique. Par exemple, né en Afrique subsaharienne ou dans les Caraïbes, et chacun et aucun autre facteur de risque. Donc, ça fait quand même réfléchir sur les chiffres, parce que les gens qui nous écoutent souvent, on parle de statistiques, de pourcentages, mais je pense quand on donne les chiffres en données, ça le place un peu dans la compréhension pour vraiment saisir sur l'importance du VIH et du sida au Canada ou en Ontario, n'est-ce pas?
Oui.
Alors,
une autre façon de voir aussi, Eric, c'est que à peu près une personne sur cinq vivant avec le VIH est une personne de nos communautés noires.
Oui. Ça fait réfléchir. Et puis, vous avez sur votre site, j'ai vu des concours, des jeux pour les jeunes. C'est très intéressant. Vous essayez de rendre votre site web très interactif, n'est-ce pas? Alors, les gens peuvent aller chercher des ressources, les étudiants, les écoles aussi. Alors, c'est très bien fait. Et je vous félicite pour tout le travail ainsi que votre personnel. Et vous avez des partenariats hein, avec beaucoup d'agences à travers la province.
Oui, nous avons des partenariats avec entre 12 et 15 agences à travers la province et nous travaillons, ce sont des agences qui ont des postes, tout justement, des personnes qui sont mandatées de travailler exclusivement avec les membres des communautés noires dans ces régions.
Alors, je vous remercie infiniment. Allez sur le site, madame, monsieur, www.
ACCHO, c'est ACCHO.ca, et il y a une version française, bien sûr, de ce site web. Valérie Pierre-Pierre, directrice générale du Conseil des Africains et Caribéens sur le VIH SIDA en Ontario, merci infiniment d'avoir été là.
Merci beaucoup, Eric.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli. Mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. N'allez pas quand il dort, surtout le réveiller. N'allez pas car il mord, si vous le réveillez. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. L'amour est tout petit, c'est joli, si joli. Mais quand il devient fort, c'est plus beau que la vie. J'irai sous le feuillage chercher le serpent gris. Oh, car l'amour c'est la mort, mais c'est aussi la vie. Car l'amour c'est la mort, et c'est le paradis. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. N'allez pas quand il dort, surtout le réveiller. N'allez pas car il mord, si vous le réveillez. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi.
Vous écoutez une émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre à chaque année, 30 ans après, où en sommes-nous ? Elle s'appelle Antonia, elle nous a envoyé un message. Elle a été infectée par le virus du sida pendant sa jeunesse. Et elle dit, je cite, « J'ai été contaminée par mon mari à l'âge de 23 ans. C'était dans les années 80 à l'époque. J'étais jeune, insouciante et un peu ignorante. On ne parlait pas trop de la maladie, je manquais d'informations, je ne mesurais pas les risques. » Au début du suivi médical, c'était très difficile. J'étais affaibli, j'avais de la fièvre et des plaques sur le corps. J'ai bénéficié d'un traitement vers l'âge de 27 ans. J'ai dû changer plusieurs fois de traitement car je supporte difficilement les effets secondaires. Par contre, aujourd'hui, j'ai un traitement qui me convient bien. Je dois le prendre une fois par jour, tous les matins. Et cette dame nous dit de faire très attention, de ne pas prendre de risques et de se protéger quand on a des relations sexuelles. Alors, merci beaucoup, Antonia. Nous avons que quelques minutes encore pour passer les messages, c'est 86 946 7000. Et j'ai Jean-Rogue Boutin, que vous avez entendu au début de l'émission, qui est un des membres fondateurs d'Action Positive VIH-SIDA à Toronto, qui nous écoute depuis le début de l'émission, je pense, et qui lui-même ne cache pas sa zéro positivité, et tout le monde le sait. Il sera sans doute dans une émission reportage à la télévision Le Premier, téléjournal de Radio-Canada à 18h. Bonjour Jean-Rogue.
Bonjour Eric.
Merci beaucoup d'être là, hein.
Ça fait plaisir.
Alors, 30 ans après, où en sommes-nous, Jean-Rogue?
Oh, il y a eu beaucoup de progrès. Je suis toujours vivant. Alors, c'est déjà c'est un signe. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur le plan médical, sur le plan social aussi. Il y a beaucoup d'organismes qui se sont mis en place et qui maintenant, comme on l'a entendu dans votre émission, très bien faite, Eric. Plusieurs organismes sont là qui planifient, qui étudient, qui trouvent les moyens. Il y en a d'autres qui relèvent des fonds, qui favorisent la recherche pour découvrir. Donc, tous ces efforts conjugués à travers le monde font en sorte qu'aujourd'hui, même si le sida n'a pas été vaincu, on survit et la plupart des gens vivent une vie presque normale et peuvent être actifs et productifs dans la société, sont créatifs de toutes sortes de façons. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès. Mmh.
Les gens oublient qu'il y a quand même plus de 70 000 personnes qui vivent avec le VIH au Canada, hein?
Oui, c'est un grand nombre. Quand on pense ici en Ontario, quand on descend la cascade, l'Ontario, Toronto, la communauté francophone, il y a des personnes qui vivent avec le VIH partout, dans tous les milieux aujourd'hui, 30 ans plus tard. Toutes les couches de la société ont été affectées par ce virus qui s'est infiltré. Moi, j'ai vécu les premiers moments. Je me rappelle le premier instant que j'ai vu un encart dans un journal dans la région de Québec qui disait vaguement qu'il y avait à San Francisco un genre de virus qui attaquait la communauté gay. Les Haïtiens aussi étaient visés à ce moment-là, les hémophiles également, mais les trois H qu'on les appelait. Donc, j'ai vraiment connu à partir du début où le diagnostic du VIH, tous les hommes gays à l'époque le redoutaient. Plusieurs avaient déjà été infectés, malheureusement. À cette époque-là, au début des années 80, vers 85-86, quand j'ai eu mon diagnostic personnel en 88, mon médecin me dit immédiatement, mets tes choses en ordre parce que tu as peut-être 6 mois à vivre et puis profite des derniers moments que tu as. Presque 30 ans plus tard maintenant, je suis toujours ici et même si la vie n'est pas toujours facile, j'ai la chance d'être capable de contribuer à ma façon, contribuer dans la communauté francophone, dans la communauté VIH, faire de la sensibilisation par des témoignages, comme aujourd'hui, par exemple, qui c'est important de prendre soin de sa santé. On en survit aujourd'hui, mais à quel prix? Il y a des prix qu'on ne soupçonne pas encore, parce que les gens vieillissent maintenant avec le VIH, et de plus en plus de personnes de 50 ans, 60 ans et plus même vivent avec le VIH aujourd'hui. Et c'est toute une problématique nouvelle parce que, encore une fois, nous sommes les premiers qui atteignons ces plus grands âges qui vivons toutes sortes de découvertes qu'on fait au fur et à mesure qu'on évolue.
Alors, en 2009, il y avait ce besoin de créer un organisme exclusivement dédié pour lutter contre le VIH, le sida, pour les francophones. Parce que pourquoi? Il n'y avait pas assez de plateformes pour les francophones?
Ben, en fait, en 2009, il y avait quelques services. On a entendu Cathy. On a le centre francophone offrait du dépistage. Il y avait APA qui était déjà présent. Ces organismes-là, mais il n'y avait pas d'organisme vraiment dédié, comme le disait tout à l'heure APA, FANTA, je dirais. Il n'y avait pas d'organisme qui soutenait les personnes qui vivaient avec le VIH. Moi, j'étais intervenant social depuis, je suis arrivé à Toronto en 92, et à ce moment-là, c'était le cœur de l'épidémie. Il n'y avait pas d'organismes sociaux qui vraiment, comme le comité SIDA de Toronto en français, vers qui on pouvait se tourner. La plupart vivaient ça seuls dans leur coin, ou pouvaient avoir de l'aide en anglais, pour ceux qui pouvaient parler et couramment l'anglais et bien comprendre, parce que quand on parle de problèmes médicaux, de santé, des problèmes de préjudice, c'est pas facile de s'exprimer dans une langue qui n'est pas notre langue première. On n'a pas toujours les nuances, les bons mots, et des fois on n'est pas trop compris. Donc c'était la réalité, et moi comme travailleur social, j'étais en contact, et homme gay actif dans la communauté LGBT de Toronto, je rencontrais plein de francophones qui décédaient véritablement du VIH, sans service ou des services qu'en anglais. On pouvait parfois amener des bénévoles pour les accompagner un peu. Comme le disait plus tôt, je pense, Fanta, les gens perdaient leur langue seconde à cause de maladies souvent qui s'attaquaient au cerveau. Et les gens étaient isolés, ne recevaient que des services en anglais, ne pouvaient pas communiquer et on devait les mettre en paire avec des bénévoles qui pouvaient les accompagner un peu. Quelques-uns parlaient français, la majorité était anglophone. Et donc, en 2009, après avoir constaté, Marcel Grimard et moi, Marcel était le cofondateur de Franco Queer et d'Action Positive, on a d'abord été par étapes. On voulait rejoindre la communauté LGBT en créant Franco Queer, et parmi la communauté LGBT qui était autour de nous, du conseil d'administration à l'époque, il y avait beaucoup d'hommes gays qui vivaient avec le VIH, et on se disait, ben c'est important qu'on aurait un service un peu du genre de PWA ou ACT, où on pourrait avoir de l'aide des gens qui pourraient accompagner les gens qui viennent d'être diagnostiqués, qui pourraient nous regrouper aussi autour de problématiques communes, et aussi créer des occasions de socialisation, parce que on le sait, si on dévoile trop notre statut, parfois on est rejeté, souvent on est toléré, pas très souvent souhaité, mais enfin, parce qu'il y a toutes sortes de complications, de maladies qui nous empêchent nécessairement de fonctionner comme un peu tout le monde parfois. Et ça met des embûches. Et, bon, on préfère ne pas nous inviter à siéger sur tel comité parce que il y a pas de possibilité à telle heure ou après telle heure. Donc, c'est toutes sortes de petites choses qui font en sorte que faut adapter notre vie, faut s'adapter à nos circonstances personnelles. Et tant mieux quand il y a des organismes comme Action Positive qui sont là pour rassembler, regrouper, célébrer certaines victoires, affronter certains autres défis. Alors, j'étais très content d'entendre M. Paul tout à l'heure qui disait que je connais un peu, mais très peu, dire qu'il avait à cœur la stratégie pour les personnes vivant avec le VIH en français en Ontario. C'est excellent, c'est de bonnes nouvelles. Donc, ça vous dit encore combien de progrès, même au niveau francophone, de plus en plus, il y a des services spécialisés, parce qu'on a besoin de services spécialisés dans la communauté francophone comme dans la communauté anglophone ou allophone, parce que des organismes de VIH qui rejoignent leur communauté spécifique, il y en a en mandarin, en sud-asiatique, il y en a en portugais, il y en a en espagnol, il y en a dans toutes sortes d'autres communautés. La communauté francophone et arrive un peu tardivement, à mon goût, mais on y est, on y arrive.
Jean-Roch, le temps passe, on pourrait parler longuement, mais je pense que c'est très important que vous preniez la parole, justement, aujourd'hui, et c'est pas seulement le 1er décembre, comme je le répète, continuellement d'ailleurs, tout le monde le sait, à cette émission, on parle de VIH à SIDA, quand il y a des études, quand il y a des rencontres, quand il y a des problèmes en justice, hein, parce qu'on sait que la discrimination, la stigmatisation existe au niveau de l'immigration, des cas de réfugiés. Et vous, vous connaissez toutes ces panoplies et ces problèmes que rencontre la communauté francophone, parce que vous êtes là depuis très longtemps, donc vous aidez tout le monde, et bien souvent c'est du bénévolat, hein, il faut bien le dire, vous n'avez pas une agence financée par des bailleurs de fonds là, pour payer votre temps. Alors je pense au nom de toute la communauté, des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent en ce moment, de toutes ces agences qui nous écoutent, qui travaillent avec nous depuis très longtemps, on aimerait vous rendre hommage et puis vous remercier de ce courage, ce militantisme de plus de 30 ans, et vous nous donnez vraiment espoir et le goût, c'est ça, de l'espoir, et vous encouragez les gens finalement qui hésitent encore peut-être à s'engager, parce qu'il faut bien le dire, parler du VIH, parler du SIDA, c'est pas qu'on va vous accueillir à bras ouverts n'importe où, voilà, hein. Il faut faire très attention, n'est-ce pas?
Tout à fait. Alors, et je suis heureux de célébrer cette année, bon, 24e année de vie à Toronto et d'implication dans la communauté francophone, LGBT, VIH, anglophone et francophone. Alors, ça me fait plaisir, Eric, que vous nous donniez la parole, et merci de tous les efforts que vous faites aussi, et vos collègues. Je suis moins présent un peu, mais je suis toujours attentif, et ça me fait plaisir de voir que les progrès qui se font lentement.
Alors, je rappelle Jean, merci beaucoup Jean-Roch, qui est un des membres fondateurs d'Action Positive VIH à SIDA, ici à Toronto. Il sera à l'émission Téléjournal de Radio-Canada le 1er décembre à 18h. Merci encore. Alors, madame, monsieur, voilà, je vous rappelle à ne pas rater le 10 décembre. Il va y avoir une soirée levée de fonds avec des drag queens, des danseurs. Ça va être très intéressant. On vous attend en grand nombre à 19h au Church on Church. C'est un bar qui est dans le coin de Maitland et Church. C'est pour une bonne cause. C'est pour aider justement les gens vivant avec le VIH. Je remercie beaucoup monsieur Paul Lapierre, directeur général de Ontario AIDS Network. Michael Bailey, directeur de programme de sensibilisation et d'éducation à Cathy. Fanta Ongoiba, directrice générale African in Partnership Against AIDS, merci beaucoup. Jean-Roch Boutin, qui était des nôtres quelques minutes, membre fondateur d'Action Positive. Valérie Pierre-Pierre, directrice générale Conseil des Africains et Caribéens chez le VIH-SIDA en Ontario. Et enfin, tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cette émission spéciale. DJ Devera, merci d'avoir été là. Ici Eric Adair. Je vous donne rendez-vous à notre émission normale dimanche prochain. Au revoir.